France Inter.
Ce soir, première émission de la nouvelle année qui commence et première occasion, certainement pas la dernière, de célébrer quelqu'un qui nous a quittés il y a 10 ans tout juste et dont la voix, la présence, la vision musicale ne nous ont jamais quittés. Il y a 50 ans tout juste, il chantait ça.
Taking you nowhere.
Angel,
come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings.
Angel,
come up, baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. One day upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Come up, baby.
Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Taking you nowhere.
Angel,
come up, baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for 1,000 years. Nothing's gonna touch you in these golden years.
Golden years.
Yeah.
C'était il y a un demi-siècle tout juste, David Bowie chantait Golden Years. Alors libre traduction d'un passage que je vous livre, j'en ai marre de t'entendre dire que la vie ne te mène nulle part mon ange, allez viens relève-toi mon bébé, regarde le ciel, la vie a commencé, les nuits sont chaudes, la journée commence tout juste, allez relève-toi mon bébé. Alors à qui David Bowie adressait-il ces paroles réconfortantes en 1976? À qui pouvait-il bien adresser ces mots? Eh bien revient inconsciemment, sans doute à lui-même. Enfin, c'est une interprétation possible. Parce que quand il a enregistré cette chanson à la fin de l'année 1975, David Bowie était, il faut le dire, au fond du trou. Comme le résumerait le pianiste anglais Roy Young, un musicien qui l'accompagnerait plus tard, je le cite, « Bowie avait rêvé d'être célèbre, d'être le gars qu'on poursuit dans la rue, que tout le monde veut toucher et qui fait hurler les filles. Mais quand ça lui est arrivé, ça l'a dégoûté. » Sans aucun doute, aux États-Unis, à New York, puis à Los Angeles où il réside alors, David Bowie est allé au bout de son rêve, devenir une rockstar internationale. Mais la désillusion est pour lui immense. Au fond, qu'est-ce qu'il a récolté ? Sans doute un tube aux États-Unis, Fame, début de l'année 75, un tube auquel a participé son nouvel ami John Lennon, mais ce tube est sans lendemain, et à quel prix David Bowie l'a-t-il décroché ? Il a dû violemment se séparer de son manager Tony DeFreeze, qui lui a siphonné tout l'argent qu'il pouvait, et de plus, il vient de divorcer d'avec sa femme Angie, furieuse que Bowie ait trahi sa promesse de lancer sa carrière à elle. Bowie s'est transformé à Los Angeles où il réside cette année-là en une sorte de reclus, de mort-vivant. Alors il vit la nuit, il dort très peu, il mange encore moins et il absorbe, c'est resté légendaire, des quantités faramineuses de cocaïne. Bowie fait de la cocaïne une consommation colossale, 7 grammes par jour en moyenne, avouera-t-il dans une interview. En tout cas, c'est dans ces conditions assez déprimantes qu'il entreprend au début de l'automne 1975 l'enregistrement d'un nouvel album au studio Cherokee à Hollywood sur Fairfax Avenue. C'est un studio que George Martin, le producteur artistique célèbre des Beatles, considère alors comme un des meilleurs au monde. Un studio qui fonctionne 24 heures sur 24, équipé de consoles de mixage 24 pistes, dernier cri. David Bowie a confié la supervision de l'enregistrement à l'ingénieur du son Harry Maslin. C'est un homme qui est habitué à régler le son live des meilleurs musiciens américains, de Jimi Hendrix naguère à Frank Zappa. Et l'équipe des musiciens qui accompagnent Bowie est centrée autour d'un certain Carlos Alomar, un guitariste, le nouveau guitariste de David Bowie. Ce portoricain de New York a fait découvrir en effet au chanteur anglais une autre musique, la nouvelle soul américaine, celle que l'on joue et que l'on écoute dans les discothèques à New York et à Philadelphie, une musique soul dominée par des musiciens d'origine latine et antillaise. La rythmique est assurée par deux musiciens noirs, le bassiste George Murray et le batteur Dennis Davis. Ceux-ci se sont illustrés en accompagnant un excellent musicien de funk jazz à New York, le vibraphoniste Roy Ayers. Ainsi, c'est un étonnant groupe multiracial qui va seconder David Bowie pour l'enregistrement de cet album qui va faire date, Station to Station, qui paraîtra au tout début de l'année 1976. C'est un album qui constitue une borne historique dans le parcours de David Bowie parce qu'il cristallise ce télescopage paradoxal propre au Bowie de la période et qui continue encore aujourd'hui à intriguer et à fasciner. Un chanteur à l'apparence froide et impassible, au cœur d'une musique chaude et bouillonnante. 50 ans après, en 2026, cet événement est célébré par la publication d'une nouvelle édition de cet album, donc Station to Station, en vinyle, au nombre d'exemplaires limités. Alors bon, ça c'est vraiment pour les collectionneurs, et pour Bowie, c'est sûr qu'il y en a, un paquet. En tout cas, ça nous donne un bon prétexte pour éclairer ce soir cet album si particulier pour la première émission de la semaine consacrée à David Bowie. Il y en aura d'autres.
Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
All I need.
Une version différente de celle de l'album The Word on a Wing, c'est une des plus belles chansons de l'album Station to Station de David Bowie qui est sorti il y a tout juste 50 ans. C'est un album auquel je consacre, je le rappelle, le Very Good Trip de ce soir sur France Inter. On a pu découvrir il y a quelques années, il y a peu de temps, en 2022, ce mixage qui est bien plus dépouillé que l'original de 1976. C'est un mix qui a été réalisé par le collaborateur le plus proche de David Bowie, j'ai nommé le New Yorkais Tony Visconti. C'était pour les besoins du passionnant documentaire qui a été consacré au chanteur qui s'appelle Moon Age Daydream. Cette version, dont la rythmique a été effacée, il est vrai qu'elle n'ajoutait pas grand-chose, met en avant le piano de Roy Bittan. C'est un musicien new-yorkais qui venait alors de se joindre à Lee Street Band de Bruce Springsteen. Bittan est resté pendant 50 ans depuis fidèle à Springsteen, évidemment, mais on a aussi pu l'entendre dans des enregistrements de Dire Straits comme de Peter Gabriel. En tout cas, cette chanson, Word on a Wing, reflète la crise existentielle que traverse alors David Bowie. Alors, il y a une expression en anglais, on a wing and a prayer, qui est difficile à traduire. On pourrait dire à tout hasard, sans grand espoir de réussite. La chanson dit, Lord, my prayer flies like a word on a wing. Does my prayer fit in with your scheme of things? Mettons que ça donne, Seigneur, ma prière s'envole comme des mots à tout hasard. Est-ce que ma prière s'intègre à ton ordre des choses ? Bowie a raconté qu'il se sentait durant cette période comme déconnecté de lui-même et qu'il avait alors éprouvé le besoin de s'accrocher sans grande illusion, il est vrai, à la foi chrétienne de son enfance. Et juste avant l'enregistrement de Station to Station, David Bowie avait vécu une expérience déterminante. Il avait tourné en tant que premier rôle dans un film intitulé The Man Who Fell to Earth. C'est un film qui avait été réalisé par le Britannique Nicholas Rogue d'après un roman de science-fiction signé par l'écrivain américain Walter Tevis. Un film que le public français allait découvrir 2 ans plus tard, en 1977, sous le titre de « L'homme qui venait d'ailleurs ». Le tournage de ce film s'est déroulé à l'été 1975 dans le Nouveau-Mexique, alors que le chanteur se sentait au bord du gouffre. David Bowie incarnait le personnage d'un extraterrestre à l'apparence humaine. Un extraterrestre qui cachait fort bien son jeu, puisqu'il se faisait passer pour un Anglais égaré du nom de Thomas Newton. Et sous la trompeuse apparence de ce Newton, ce personnage, en fait, qui était tombé d'une autre planète, découvrait au contact des humains le sexe, l'alcool et la télévision. Et oui, objet de fascination, ceux-ci allaient vite le corrompre et même l'asservir, et l'histoire, évidemment, allait très mal se terminer. Bowie a été profondément troublé, bouleversé même par cette expérience, parce qu'il a vu dans le destin de ce malheureux Newton les métaphores de son propre destin. Il s'est même allé très très loin. Non seulement David Bowie s'est identifié au personnage, mais de son propre aveu, il est resté pendant les 6 mois qui ont suivi le tournage dans la peau de ce Newton dont il n'arrivait plus à se défaire. Tout comme il s'était mis 5 ans auparavant dans celle du rocker fou Ziggy Stardust. Et cette expérience aura néanmoins eu pour vertu de faire sortir Bowie, selon ses propres dires, d'un état, je le cite lui-même, maniaco-dépressif. En 1976, après la parution de l'album Station to Station, David Bowie s'est embarqué, à contre-cœur dira-t-il, dans une tournée afin de se renflouer après qu'il se fût fait dépouiller par son manager. C'est une tournée qui a fait date, elle a fait découvrir un autre Bowie, un personnage déconcertant, inquiétant même, en apparence froid et étranger à lui-même, mais dont la voix restait étonnamment chaude et lyrique, emmenée par un orchestre au style rock-soul, assez proche, somme toute, par certains aspects, de celui de Bruce Springsteen. Tout le paradoxe de cet artiste contradictoire, comme fatalement toujours opposé à lui-même.
is the stuff from where dreams are woven. Bending sound, lost in my circle, dredging the ocean. All in my room overlooking the ocean. Here are we, one magical movement from Kepler to Malibu. Yeah.
Station to Station, une excellente version live captée lors d'une tournée américaine de David Bowie en 1978, c'est-à-dire 2 ans après la sortie de l'album qui portait donc lui aussi ce titre de Station to Station. On peut entendre cette version dans un album qui s'appelle Stage. Et dans son groupe d'accompagnateurs multiracial figurait toujours le guitariste portoricain Carlos Alomar et la rythmique très funky formée par le bassiste George Murray et le batteur Dennis Davis. La nouveauté en 78, c'était la présence du guitariste Adrian Belew, qui avait été découvert par Frank Zappa et qui serait plus tard invité par le groupe Talking Heads. Mais je reviens à cette année 1976 et à cette tournée conclue en apothéose à Paris par 3 concerts complets au Pavillon de Paris. Alors, le Pavillon de Paris, c'était un affreux chapiteau qui était planté à la porte de Pantin, le Zénith n'existait pas encore. Je me rappelle, j'avais vu au Pavillon de Paris Bob Marley l'année suivante. En tout cas, c'était la première fois en mai 1976 qu'on pouvait voir David Bowie en France et c'était complet, bien que, et ça je le souligne souvent et je le rappelle, bien qu'aucune radio en France, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, ne diffusa la moindre chanson de David Bowie dans les programmes populaires du jour. Je ne parle pas des émissions spécialisées du soir au cours desquelles on entendait beaucoup de choses qui n'étaient pas sur les playlists quotidienne. Alors, j'y étais pas à ces concerts, mais j'ai beaucoup de chance parce que mon meilleur ami, le photographe et poète Leonardo Marcos, lui, y était et voici le témoignage que j'ai sollicité de lui et qu'il m'a transmis. Je le cite. « Quand je suis entré dans la salle, écrit Leonardo Marcos, on diffusait la musique allemande du groupe Kraftwerk, encore peu connu des jeunes. J'écoutais alors les musiques expérimentales allemandes de l'époque, mais j'avais surtout un faible pour la soul et plus encore pour le funk. J'étais évidemment impressionné par le public, qui portait souvent des vêtements en référence à son idole. Coiffure ou maquillage à la Ziggy Stardust ou encore le célèbre éclair de la pochette de Aladdin Sane. Je sentais pourtant que tout cela appartenait déjà au passé. Le glam rock avait disparu ou s'essoufflait. Bowie s'était transformé en extraterrestre, aux allures de personnages du cinéma muet entre Buster Keaton et l'expressionnisme allemand. Tandis que la plupart des groupes chantaient encore leur amour de la Californie, David Bowie explorait une Amérique industrielle et voyageait vers les pays de l'Est. Lorsque le concert a commencé, j'ai été surpris par la violence de la guitare qui sifflait et hurlait comme une vieille locomotive en détresse ou un chien mourant. Puis entraient des sons de train en marche, de gauche à droite, soutenus par un clavier répétant les mêmes accords. La section rythmique s'imposait ensuite, funk et métallique, dans un décor sonore d'austérité, comme un voyage dans une Allemagne de l'Est, imaginaire et souffrante. Les lumières blanches et froides rappelaient les films de Dreyer. C'est alors que Bowie est apparu, vêtu d'un costume noir et blanc, le visage blême et maigre, tel un malade en fin de vie. Il avait cette élégance anglaise classique, mais on ne savait s'il était humain ou mutant. À lui seul, il incarnait l'ange qui réunit le rock, le bruitisme allemand et la musique noire américaine. Comment était-ce possible de rassembler des mondes si différents ? Sa personne rendait cela évident comme un médiateur capable d'harmoniser les contraires. Sa présence était bouleversante de beauté et de grâce. Elle était quasi mystique, révélant la dynamique de la vie, ses forces, ses faiblesses, sa tristesse et la joie portée par la danse. C'étaient les mots, si précis, si pénétrants aussi, de mon ami Leonardo Marcos. Je le remercie ce soir de me les avoir prêtés.
This week has passed me so slowly. The days were on their knees. Maybe I'll take something to help me. Hope someone takes after me. There's always a change in the weather. This time I know we could get it together. If you would stay here tonight, oh, that would be crazy tonight, babe. That's what I meant to say, or do something. But what I never say is stay this time. I really meant to so bad this time. For you can never really tell when somebody wants something you want to. Save me tonight. Life can be vague when it sends someone new. This time tomorrow I know what to do. I know it's happened to you. Stay. That's what I meant to say. I'll do something. But what I never say is stay this time. I really meant to so bad this time. For you can never tell when somebody wants so much to stay. That's what I meant to say. I'll do something, but what I
Stay, un des sommets de l'album Station to Station, interprété sur scène 2 ans plus tard, en 78, par l'excellent groupe qui accompagnait alors David Bowie. Un Bowie revigoré, sevré de la cocaïne, j'y reviendrai demain, loin du fantôme qu'il avait été en enregistrant cet album. Dans la chanson titre, Station to Station, il évoque le Thin White Duke, le duc pâle et frêle, qui, je cite la chanson, lance ses traits dans les yeux des amants. Et la chanson ajoute d'ailleurs « Me voici, ne projetant aucune couleur, grand dans cette pièce, surplombant l'océan ». Une image superbe, saisissante, de la déréliction qu'avait connue David Bowie à Los Angeles. Le Thin White Duke, c'est à partir de l'année 1976 son personnage de scène. Oui, un duc pâle et frêle qui chante des mélodies soul sur un ton de lyrisme théâtral, jurant violemment avec l'apparence choisie des personnages à la raideur aristocratique figée dans une élégance corsetée. Bowie apparaît alors sur scène dans des spectacles éclairés par des lumières blafardes, évoquées par mon ami Leonardo Marcos. Je vous ai lu son texte tout à l'heure, un texte magnifique. Et il apparaît sur scène dans ces lumières qui sont le fruit de sa fascination pour le cinéma expressionniste allemand, comme pour les photographies surexposées de Man Ray. Bowie se réclame parallèlement de la distanciation, entre guillemets, du théâtre de Bertolt Brecht, se présentant sur scène comme un personnage insaisissable, étranger à lui-même, un être sans substance, auquel il est impossible de prêter la moindre émotion et donc de s'identifier. Pour le résumer simplement, Bowie adopte une façon de chanter, de jouer et d'incarner un double, tout en montrant qu'il n'y croit pas, qu'il n'est pas dupe de cette effigie. Et il appelle lui-même ce style si singulier de la soul en plastique. Dans une interview qu'il a donnée en 1976 à l'hebdomadaire britannique Melody Maker, David Bowie a dit ceci: « Je n'ai jamais été un chanteur de rock'n'roll, mais j'ai une certaine aptitude à fabriquer un personnage qui incarne un sentiment froid sans émotion. Un personnage qui est sans doute une amplification de toutes les choses que je ressens vis-à-vis de moi-même. » Et cette froideur n'est pas qu'une esthétique chez Bowie, elle exprime aussi bien sûr une forme de déchirure. Il faut aussi souligner que durant cette période, le chanteur a découvert l'œuvre du cinéaste allemand Fritz Lang, et en particulier son film légendaire Metropolis de 1927, un film qui mettait en scène une ville monstrueuse d'une année 2026, et oui, imaginaire, c'est drôle, on y est, où dans une vision effrayante, une usine se transforme en un monstre avalant ses ouvriers robotisés. David Bowie voit dans ses personnages en noir et blanc, à l'expression impassible, comme halluciné, la prémonition d'un monde déshumanisé dont il ressent qu'il est le sinistre messie. Il se reconnaît ainsi dans l'esthétique inquiétante de l'expressionnisme allemand qui privilégie les stries violentes de lumière aveuglante et les décors déformés. Par ses influences multiples, David Bowie devient sur scène un nouveau personnage quasi futuriste.
By this hungriness, you know your life itself. Like the leaf wings to the tree. Oh, my darling, cling to me. For we're like creatures of the wind. Wild as the wind. Wild as the wind.
La conclusion de l'album Station to Station, cette splendide reprise par David Bowie de la chanson Wild as the Wind. C'est à l'origine, c'était une chanson de la fin des années 50 qu'avait interprété Johnny Mathis pour un film du même nom, Wild as the Wind, en français Car sauvage est le vent. C'était avec la comédienne italienne Anna Magnani et le mexicain-américain Anthony Quinn. Et c'est le grand compositeur de Hollywood, Dimitri Tiomkin, d'origine russe, auteur de plein de musiques de western, qui avait composé la mélodie. Et Nina Simone en avait chanté une magnifique version, très dépouillée, splendide. C'était en 66 et cette version a de toute évidence inspiré Bowie, qui l'a transcendé à son tour, comme la feuille s'accroche à l'arbre. « Oh ma chérie, accroche-toi à moi, car nous sommes les créatures du vent et sauvage est le vent. » Alors, Bowie est alors au bout du rouleau. « J'étais, dira-t-il plus tard, dans une voiture que je ne contrôlais plus et qui se dirigeait vers le précipice. » Et pour échapper à ce désastre, eh bien, Bowie saura inventer une nouvelle mise en scène pour trouver son salut, à la fois physique, moral et artistique, celle de son propre effacement qui ira de pair avec sa façon généreuse de se mettre au service d'un autre, en l'occurrence son ami Iggy Pop. C'est ce que je vous raconterai demain. Il nous reste un peu de temps, celui d'écouter une curiosité qui a été enregistrée durant cette période. C'est une reprise par David Bowie de It's Hard to be a Saint in the City. C'est un titre qu'avait écrit et créé Bruce Springsteen pour son tout premier album qui était paru en 73, Greetings from Asbury Park, New Jersey, qui a été largement passé inaperçu en Europe, mais remarqué par David Bowie. Était-ce surprenant? La chanson s'appelle donc « C'est dur d'être un saint dans la ville ». Je cite « Le diable est apparu comme Jésus dans les vapeurs de la rue. J'ai senti son souffle chaud sur mon cou tandis que je plongeais dans la chaleur. C'est si dur d'être un saint quand tu n'es qu'un pauvre gars dans la rue. »
white leather and the diamond hard rope of a cobra. I was born blue and weathered, and I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun, and dance just like a casanova. With my blackjack and jacket and my hair slick sweet, silver studs on the duds just like a hobby in heat. When I struck down the street, I could hear its heartbeat. The sisters fell back and said, "Don't that man look pretty?" The cripple on the corner cried out, "Hey, niggas, for your pity. Them gasoline boys downtown, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city." I was the king of the alley, mama. I could talk some trash. I was the prince of the paupers, crown downtown at the beggar's bash. I was a pimp's main prophet. I kept everything cool, just a backstreet gambler with a love to lose. And when he came down, it was left on the ground. Devil appeared to me like Jesus through the steam and the speed, and showed me a hand that even the cops couldn't beat. And I felt his hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street. But the streets of the subways sit just like a living dead. As the tracks strike out the rhythm, the eyes fix straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. But it's too hard in these tunnels, you can get hit up by the heat. When you get up, you get out your next stop. When they push you back down your seat, and your heart starts beating faster as you struggle through your feet. Then you're out of that hole, back on the street. And them sad sisters, they sure look pretty. And the cripple on the corner cries out, "Niggas, for your pity." And them y'all talk pretty, it's so hard to be a saint in this city.